Des clés pour vivre avec Nathalie Cardon.
Bonjour Marie Binet.
Bonjour Nathalie.
Alors, notre programme, et c'est un peu votre programme avec l'apparition de votre dernier livre, et c'est le thème autour de l'emprise. Ce livre s'intitule « Se reconstruire après l'emprise ». Vous donnez donc plein de témoignages qui sont très puissants et qui sont pleins d'espérance, qui révèlent que si des personnes sont sous emprise, on peut toujours sortir de ce schéma répétitif douloureux. Et vous donnez bien sûr, je dirais, des clés pour sortir de cette emprise. On revient dans votre témoignage personnel, puisque vous livrez un peu les grandes clés de votre parcours, puisque vous avez été vous-même sous emprise dans votre tendre enfance. Et ce schéma s'est reproduit quand vous vous êtes marié pendant près de 20 ans. Pourquoi avoir voulu maintenir une relation avec un époux pendant près de 20 ans?
Alors, première réponse, parce que je l'aimais, tout simplement.
C'est une réponse vraie,
voilà, parce que je m'étais engagée.
Donc, il y avait de l'amour.
Il y avait de l'amour.
Il y avait de l'engagement et de la fidélité pour vous.
Oui, tout à fait. Ouais. Une grande fidélité. Moi, j'ai une notion d'engagement qui me vient de mon éducation, qui était très forte. Donc, j'avais dit oui. Donc ça, c'était important. Et ensuite, parce que il y avait des enfants et qu'à un moment donné, je me sentais responsable aussi, alors certainement beaucoup trop responsable, mais de maintenir la cellule familiale coûte que coûte. Donc je me suis sacrifiée sur beaucoup de points, pas sur tous, parce que j'ai quand même fait ma formation de conseillère conjugale pendant ce temps-là. Et alors, pour tout vous dire, c'est au moment où j'ai vraiment commencé ma formation de conseillère conjugale que là, tous les warnings se sont allumés en disant « Non mais en fait, ça dysfonctionne complètement. » Alors, je le savais, mais là, j'ai pu le reconnaître. Et il y a une différence entre savoir et reconnaître. On peut savoir quelque chose, mais continuer avec. Quand on reconnaît, on ne peut plus passer à côté. Et donc, on est obligé de réagir. Et donc là, j'ai commencé à réagir et j'ai mon ex-mari qui me disait « Oh, mais tu changes trop. » Et en fait, je ne changeais pas. Je ne faisais que redevenir moi-même. Et donc, je finissais par dire non à certaines choses. Je finissais par dire, je ne suis pas d'accord, je ne peux pas aller là. Il y a des comportements que tu as qui ne me vont pas. Tous les mensonges, moi, j'en pouvais plus, en fait. Donc, finalement, ça a contribué à ce que ses propres comportements augmentent, finalement. Mais moi, ça me permettait de plus en plus de me libérer. Jusqu'au moment où j'ai demandé à ce qu'on fasse un très grand changement. Qui finalement n'a pas été complètement accepté par mon ex-mari. Et progressivement, ça a précipité la fin du couple avec des infidélités qui ont augmenté.
Alors, avec le temps et le recul, vous reconnaissez quelques erreurs?
C'est pas des erreurs. Je pense que d'abord, j'ai fait comme je pouvais à ce moment-là, avec les moyens que j'avais, parce que j'étais prisonnière dans la maison, j'étais prisonnière dans la relation. Et j'étais quand même quelqu'un qui n'avait pas de moyens financiers, qui n'avait pas de travail, les trois enfants. J'avais quand même envie de vivre autre chose. Alors, quand je dis prisonnière, j'étais très indépendante. Donc, je faisais des activités, je faisais du bénévolat, je m'occupais de mes enfants librement, etc. Mais il y avait quelque chose de l'ordre de la relation conjugale et de l'ordre de ma propre relation à moi-même qui ne pouvait pas s'exprimer dans le contexte dans lequel j'étais.
Donc vous n'étiez plus libre intérieurement dans cette relation conjugale?
Pas du tout.
Donc
et dans
là
le lieu
où et vous parlez de prison.
Voilà. Une et dans prison. le lieu, on vivait dans une prison dorée. Hein. Donc c'était.
Et de l'extérieur, les amis?
Ils ne pouvaient pas voir. Alors s'il y a un ou deux amis qui le voyaient, il y en avait un qui m'avait mis des alertes en disant ne fais pas ça. Alors oui, il y a certainement des décisions que j'ai prises qui n'étaient pas les bonnes à un moment donné, des choix que j'ai faits qui me semblaient pour sauver. En fait, j'ai toujours pris des décisions pour sauver le couple ou pour sauver la famille. Mais finalement, c'est pas ce que ça n'a pas marché.
En fait, voilà. Vous avez pris cette posture dans votre enfance, dans votre adolescence, de sauveuse.
Oui.
Et vous avez répété cette posture de sauveuse dans votre vie conjugale.
Oui, qui a fini par me rendre victime.
Aujourd'hui, c'est fini. Vous n'êtes plus une sauveuse.
Alors là, non. Même dans ma nouvelle vie conjugale, au début, c'est un peu ce que j'ai continué à faire. Et puis
donc,
à un moment
donné,
vous
avez essayé de répéter ce schéma.
Alors, c'est pas que j'ai
fois.
Essayé, mais c'est qu'à un moment donné, quand on est altruiste de nature, de toute façon, on y va, même sans s'en rendre compte. En fait, la posture de sauveur, elle n'est pas mauvaise en soi. Elle devient mauvaise quand on empêche l'autre de prendre ses propres responsabilités. Et c'est là le travail que j'ai dû faire, c'est d'accepter que l'autre prenne ses responsabilités au rythme où il peut, où il veut, dans sa propre liberté, et que ça ne dépend pas de moi. Et vous savez que quand on est victime de manipulation, c'est qu'on est d'abord dépendant de l'autre. Et je suis de nature dépendante. Je suis de nature fusionnelle, avec une demande affective importante.
Hypersensible,
parce que,
vous parlez de
voilà.
Cette hypersensibilité.
Et du coup, y a un moment donné, c'est de comprendre que... on ne va pas changer l'autre, mais par contre, soit on peut apprendre à être beaucoup moins dépendant, on peut apprendre effectivement à vivre les choses autrement, dans sa sensibilité aussi, dans ses émotions, et donc finalement accepter qu'on a son propre chemin, et c'est ce que j'ai pu faire grâce justement à mon mari actuel, parce que il n'est pas de nature fusionnelle, donc il m'a bien aidée.
Un grand merci.
Voilà, exactement. Je pense que ce n'est pas pour rien que je l'ai rencontré. En tout cas, je crois que un parcours de vie est toujours un parcours de croissance. Et toutes les personnes que j'ai rencontrées dans ma vie ont contribué à ce parcours de croissance. Et en commençant par mes parents, leur propre parcours de vie, dans lequel j'ai eu une place, m'a permis de grandir et d'être une femme aujourd'hui à 50 ans qui a appris ce que c'était que le pardon, qui a appris ce que c'était que de reconnaître ses erreurs et de dire j'ai contribué aussi à ce que certains moments ça ne se passe pas bien ou ça ne soit pas des relations qui soient suffisamment saines.
Quand vous évoquez cette question du pardon, donc le pardon donné pour un entourage proche et un pardon pour vous-même peut-être, hein, ce
bien
chemin-là
sûr.
Intérieur de se pardonner peut-être de certaines erreurs où vous l'avez fait.
Oui, reconnaître qu'on n'a pas fait forcément les bons choix ou pas pris les bonnes décisions ou que j'étais moi-même enfermée dans mon propre idéal, dans ce que je croyais bon pour tout le monde. C'est une erreur de croire qu'on pense que tout est qu'on sait ce qui est bon pour les autres. Et puis aussi, quelquefois de rester moi-même campée sur des positions, à revendiquer certains traits de mon caractère, etc. Enfin, puis il y a un sentiment d'injustice qui est fort dans ces cas-là qu'il faut aussi arriver à lâcher. Hein. Parce que vous savez, quand on vous dit, vous êtes victime, et puis on vous dit, c'est à vous de faire les efforts. Non. Si je suis victime, pourquoi ce serait à moi de faire les efforts ? Ça paraît injuste sur le coup. Et en fait, si. Parce que, en fait, l'autre, on ne peut pas lui demander de les faire. Donc oui, si on veut sortir de son rôle de victime et de sa place de victime, c'est à soi de faire les efforts. Et une fois qu'on a compris ça, le chemin, il est beaucoup plus facile.
Donc c'est là où vous pouvez parler de libération,
exactement.
De guérison, d'épanouissement. Mm-hmm. Vous êtes aujourd'hui en paix avec vous-même.
Oui, parce que je ne me victimise plus. Donc déjà, ça change beaucoup.
C'est le chemin du bonheur de sortir de cet état de victimisation.
Oui. Je dirais qu'on peut dire qu'on va pas bien, on peut dire qu'il y a des moments où on souffre, on peut dire qu'il y a des choses difficiles, mais on peut le dire sans se victimiser. C'est pas si simple que ça. Hein. Ça m'a demandé beaucoup de chemin. Mais c'est ce que j'ai appelé le dépouillement dont je parlais, parce que ce dépouillement, c'est de dire il y a des choses qui sont difficiles, des choses qu'on n'arrive pas à vivre, qu'on n'arrive pas à faire.
C'est parfois très humiliant.
Il peut y avoir de l'humiliation, mais...
De la honte ?
Alors, la honte, je l'ai vécue au moment
vécu,
du divorce.
Vous l'avez vécue. La procédure du divorce a été très compliquée.
Elle a été très compliquée. Et puis, vous savez, il y en a qui m'ont pas épargné. J'ai entendu beaucoup de choses. Ça a été compliqué d'entendre sur soi, sur la relation de couple, sur la vie de famille. Il y a eu des humiliations et de la honte. Et en même temps, prendre ce recul, c'est dire, les uns et les autres pensent ça, il peut y avoir du jugement, très bien.
Vous avez eu du jugement
sur
votre personne.
Bien sûr. Et alors ?
Et vous l'avez traversé comment ?
En me mettant au pied de la croix. Tout simplement. Parce qu'il y a un moment donné, je ne pouvais pas, et que c'était très lourd, et que je souffrais très fort, que je voyais mes enfants souffrir, énormément souffrir, et que ça, en fait, j'ai beaucoup plus souffert en tant que maman qu'en tant que femme.
Vous l'écrivez.
La femme, elle pouvait se relever, voilà. Parce que j'avais vécu ça depuis toute petite, de me relever, donc je savais le faire. Mais alors mes enfants, Ça a été la douleur la pire. Et je peux vous dire que j'ai compris ce qu'avait vécu Marie et j'ai compris ce que Siméon lui avait dit en disant « Un glaive traversera ton cœur ». Et ça, ce glaive, je l'ai vécu. C'est dur. C'est un chemin de grande douleur. Et puis, à un moment donné, pareil, on lasse ça en disant « Ça, je peux pas, en fait, ça fait trop mal. Dieu a un plan pour chacun d'entre nous, donc Dieu, fais ce que tu peux avec mes enfants, parce que là, il y a un moment donné, moi, je peux pas aller plus loin. Je vois bien que, voilà, c'est vraiment un chemin d'humilité. »
Et de dépouillement, de déposition aussi au pied de la croix.
Oui.
Et cette déposition conduit à l'abandon.
Un abandon, qui est pas toujours facile, même encore aujourd'hui. On a nos résistances qui restent. Et puis, mon sacré caractère, de temps en temps, continue à me jouer des tours.
Bon, on en sera un peu plus demain, là. Puisque vous posez des paroles de vérité. Mm-hmm. Et au fond, vous cherchez la vérité et la justice.
Oui.
Ça vous définit.
Oui. En tout cas, je pense que je cherche surtout une grande humanité dans les relations.
Est-ce que vous êtes une guerrière ou une combattante ou...
Alors, comment guerrière, vous... non, je l'ai été, je ne le suis plus.
Voilà.
Combattante, je vais dire, je ne suis pas dans le combat, mais je continue de me battre pour ce qui me semble en effet bon, c'est-à-dire l'amour.
Marie Binet, merci pour cette intervention du jour. J'invite ceux et celles qui vous ont suivi aujourd'hui à vous lire. Voilà, c'est avec ce dernier livre, Se reconstruire après l'emprise. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous demain pour clôturer cette série des clés pour vivre et trouver les bonnes clés pour, au fond, et c'est la bonne nouvelle, sortir de l'emprise, c'est toujours possible.
À demain.